C'est un monde.
Hervé, c'est une histoire de famille, l'élevage bovin à la ferme du Prince à Sobrigues. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu pour commencer de cette histoire de famille?
Bon, mais de toute façon, vous savez, dans l'agriculture, hein, là, autrefois, dans toutes les fermes, il y avait des vaches. Et pour quelles raisons il y avait des vaches? D'abord, c'est parce que les vaches servaient à traction animale, on n'avait pas de tracteur, et c'est les vaches qui servaient pour faire les travaux des champs. Or, dans les années 50, dans les années 60, toutes les fermes avaient des vaches. Ça a bien changé, puisque dans mon village aujourd'hui, quand j'avais 10 ans, il y avait 70 fermes où il y avait des vaches. Quand j'avais 25 ans, il y avait 40 fermes où il y avait des vaches. Aujourd'hui, j'ai 61 ans et il n'y en a plus que 2. Et je suis le plus jeune. Ça a beaucoup changé. Ici, chez moi, on a toujours élevé des blondes d'Aquitaine. Et je suis sur la ferme de ma mère, quelque part. Parce que donc, mon père est venu se marier et faire sa vie d'exploitant agricole chez ma mère. Donc, et chez mes grands-parents paternels également, il y avait les blondes d'Aquitaine. Et mon grand-père paternel, lui, a œuvré pour la blonde d'Aquitaine, puisqu'il était à son fondement en 1962. Et c'est lui qui avait signé les accords pour la race blonde des Pyrénées à l'époque, parce que nous faisions à l'époque partie de la blonde des Pyrénées au jumelage des Trois Ramons en 1962. Et c'est lui qui avait signé les accords pour la blonde d'Aquitaine à l'époque. Le 5 juillet 1962, à Saint-Jean-Tyros. Voilà.
Parce qu'il y a trois races qui ont fusionné, en gros, pour créer la race.
La blonde des Pyrénées, qui était notre race à nous, la garonnaise, qui était la race de la vallée de la Garonne, et la Quercy, qui était plus la vache du Tarn, Tarn-et-Garonne et du Lot.
Et qu'est-ce qui vous plaît à vous dans ce métier, Hervé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit que vous reprendriez l'exploitation familiale?
Bon, et quelque part, c'est tout naturel. Hein. Les choix, vous les faites sans les faire. Oui, au moment donné, j'ai fait des choix de devenir éleveur. Éleveur spécialisé, parce que toutes nos petites fermes, elles faisaient un petit peu de tout, quoi. Et moi, à un moment donné, j'ai choisi d'être éleveur spécialisé et de faire de la race blonde d'Aquitaine, disons, 80 à 85% de ma production annuelle. Ça, c'était dans les années 90.
Vous apprêtez là à partir pour Paris, d'un départ imminent pour le Salon international de l'agriculture. Je me suis laissé dire que ce n'était pas la première fois que vous montiez à Paris pour cette occasion.
Ah non. Alors l'histoire de son agriculture, pour moi, c'est l'histoire de ma vie quelque part, parce que j'ai toujours rêvé. Alors mon grand-père est allé au salon d'agriculture dans les années 50 déjà, avec mon père jusqu'à les années 60. Et donc après, mon père est venu ici donc sur la ferme, est arrivé quand il s'est marié avec ma mère en 1959. Et donc on a fait quelques petits concours, mais on faisait plus les grands concours. On a repris les grands concours quand je suis revenu, quand j'ai eu 15-16 ans, quoi. Alors jusqu'à là, j'allais au concours avec mon oncle, et qui m'a mené un peu dans tous les concours aussi. Et voilà. Et donc, moi, toute ma vie a été bercée par les concours, et le salon d'agriculture, ça a toujours été la chose où j'ai rêvé d'être. Et la première fois que je suis allé à Paris, c'était en 1976, parce que j'ai des parents là-bas. Et il m'avait demandé, le cousin m'avait demandé de faire une liste des lieux que je voulais visiter. Et je lui avais dit, moi, je vais aller voir où se passe le salon d'agriculture. Et il m'a dit, mais il n'y a que des hangars, tu verras rien maintenant, c'est au mois de mai. Mais je m'en fous, c'est là que j'irai un jour, alors c'est là que je vais aller voir. Et il m'avait amené, on avait simplement vu, quoi, les hangars de la porte de Versailles. Et deux ans après, je suis allé au salon d'agriculture avec un collègue landais également. Nous étions les deux en terminale à Montardon, au lycée agricole pour Montardon à Pau. On s'est qualifiés tous les deux, premier et second, pour aller au jeu de bétail par les jeunes au centre d'agriculture. C'était ma première sortie au centre d'agriculture en 1978. Et après, je suis revenu avec mon père, avec notre première sélection sur cette ferme, donc en 1983, avec un taureau. Je suis revenu en 1984 avec une vache. Et après, donc j'ai eu 11 sélections en Aquitaine sur l'ensemble de ma carrière. Et j'ai eu la chance, en 1993, en 1994, d'être premier prix et champion de race avec une vache qui s'appelait Caline, qui est la vache de ma vie, quelque part. J'ai tout fait avec elle, elle est allée trois fois à Paris, elle a fait trois fois première, deux fois championne. Et j'ai tourné des émissions de télévision avec elle, notamment La Cuisine des Mousquetaires à MIT à l'époque. Et voilà, bon, c'était c'est la vache que j'ai fait tout avec elle, quoi, en quelque sorte. Et après, ça a continué. J'ai d'autres sélections, des taureaux. La dernière fois que je suis allé au salon d'agriculture avec une bête, c'est il y a 9 ans déjà, quand même. En 2013, voilà, c'est ça.
Donc une petite émotion, j'imagine, de retourner avec une vache et puis une bazadaise cette fois-ci au
Alors
salon
voilà,
d'agriculture.
alors l'histoire de la bazadaise, j'ai toujours aimé les bazadaises. C'est une petite race landaise, mais c'est une race qui a toujours existé dans les Landes, qui a failli s'éteindre. Et à un moment donné, il n'y avait plus aucun jeune qui élevait des bazadaises. Il y avait simplement Joël Sillac, à Perquis, qui est l'éleveur numéro un de la race aujourd'hui. Et Joël, elle est à Paris, je l'ai connu en 1993 à Paris. Et il y avait simplement trois bêtes, je crois, ou quatre, je ne sais plus. Et c'est lui qui portait la race pour notre département. Et la race avait du mal à recruter des jeunes éleveurs, quoi. Et alors on est devenus copains, certains avec Joël, et je lui ai toujours dit un jour j'aurai des bazadaises. Et il ne me croyait pas, Joël, il ne me croyait pas. Et il se trouve un autre copain aussi qui a des blondes, un troupeau de blondes important dans les Landes, a acheté des bazadaises. Et il sera aussi à Paris avec une bazadaise et moi. Et il sera d'ailleurs lui présent en blond et en bazadaise. Et un
C'est les
jour, il me dit,
comptants?
Eric Contant, voilà tout juste, qui est un ami depuis 40 ans. Et Eric, il me dit, je pourrais acheter une génisse bazadaise. On m'a parlé d'une génisse bazadaise qui est très jolie, qui pourrait faire des concours. Est-ce que tu veux l'acheter avec moi? Je lui ai pareil. Et on a acheté notre première bête, cette première bête ensemble. Et on a fait le premier concours en copropriété. Et après, j'ai racheté ma demi-part et c'est celle-là qui ira à Paris aujourd'hui. Voilà. Et après, mes copains, dont fait partie Eric Contant et d'autres qui se reconnaîtront, pour mes 60 ans, sont arrivés, je les avais invités. Ils sont arrivés, ils m'ont offert une seconde bazadaise de chez Joël Sillac. Et donc maintenant, j'ai quelques petites bazadaises, quoi. Voilà. Et les deux velleront cette année, donc je n'aurai normalement 5 à la fin de l'année.
Et
Voilà, mais c'est une histoire d'amitié. La bazadaise, c'est une histoire d'amitié. C'est une race qui était sur le déclin, qui aujourd'hui réintéresse les gens parce que c'est une très bonne race, qui a sa notoriété dans la région, en Gironde et notamment sur Bordeaux pour la qualité de sa viande. Mais c'est une race qui a manqué d'éleveurs parce que c'est une race qui ne devrait pas s'éteindre et qui ne s'éteindra pas maintenant, c'est sûr. Mais qui a manqué d'éleveurs et qui pourrait être une très grande race française. Elle a une énorme qualité.
La différence sur le cahier des charges pour la bazadaise et la blonde d'Aquitaine,
Ah,
qu'est-ce qu'on peut.
c'est deux vaches différentes. La blonde d'Aquitaine, c'est la Formule 1. C'est la Formule 1 de l'élevage bovin. C'est la Formule 1, c'est la plus belle vache. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une vache d'une race jeune, certes, mais c'est une vache d'élevage de concours. Elle passe toutes 1000 kilos. Les taureaux arrivent à 45 kilos. C'est une vache. Mais après, auquel il faut apporter énormément de soins, quoi. C'est tout, comme toutes les Formule 1, il faut toujours s'en occuper très, très bien, quoi, je dirais. La bazadaise, c'est une vache plus rustique qui s'élève beaucoup plus facilement, qu'on peut plus facilement l'abandonner au fond du pré. Ce qui n'est pas le cas des miennes, parce que je les élève comme des blondes d'Aquitaine. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, mais c'est une vache beaucoup plus rustique et qui est beaucoup moins lourde aussi. Et bon, une belle bazadaise fait 800, 850 kilos. Voilà, c'est pas pareil. Mais bon, et une vache qui se vend sur le marché de la viande aujourd'hui, qui se vend plus cher que les bonnes d'Aquitaine. Elle fait moins de poids de carcasse, mais elle se vend plus cher. Parce qu'elle est très demandée sur Bordeaux.
Au bout de toutes ces sélections, quel est l'intérêt pour vous, Hervé, d'aller encore au salon? Alors avec une bazadaise cette année, donc j'imagine que ça va peut-être un petit peu changer les choses, mais quel intérêt vous voyez à participer au salon de l'agriculture?
Mais de toute façon, l'intérêt financier, il n'est pas très grand. Hein. Rassurez-vous, il n'est pas. Vous n'allez pas là-bas pour gagner de l'argent. Hein. Vous en perdez même, mais on n'est pas là pour parler d'argent. On est d'abord là pour parler d'une race. On est choisi par une commission qui choisit votre animal pour aller représenter la race à Paris, d'abord. Et après, il faut savoir que c'est quand même une manifestation qui a nulle part ailleurs. J'ai eu l'occasion en 30 ans d'aller juger des concours dans l'Europe entière. Il y a de belles manifestations ailleurs, notamment en Espagne, il y a une manifestation à Salamanque tous les ans qui est magnifique, mais qui n'a rien à voir avec le centre d'agriculture parisien. Voilà, il n'y a pas d'équivalent. Je suis allé juger au Danemark, il y a de belles manifestations qui durent une semaine aussi au mois de juin, mais je ne suis pas allé en Allemagne, mais il y a une manifestation aussi, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qui se passe en France, quoi. Déjà parce qu'il y a beaucoup de races en France, beaucoup de races de vaches. Que les meilleures races au monde sont des races françaises, il faut le savoir, la Limousine, la Charolaise, la Bonne d'Aquitaine et plein de petites races comme la Bazadaise. Mais bon, c'est pas égalé, quoi. Il n'y a aucun salon en Europe d'agriculture qui a fait 1 million de visiteurs, quoi. Quand les animaux étaient groupés avec le matériel aux portes de Versailles, il y avait plus d'un million de visiteurs. Maintenant, il y en a encore 650 000.
Et donc, le fait qu'il n'y ait pas eu de salon en 2021, puis certains comices agricoles annulés, est-ce que ça a eu un impact sur l'élevage ou sur le rythme annuel?
Oui et non. Mais des comices agricoles annulés, il y en a eu. Mais j'ai été président de l'Interras dans les Landes, la journée départementale de l'élevage, pendant 30 ans, jusqu'à l'année dernière. Et dans les Landes, on n'a pas annulé. Mmh. On est les seuls à ne pas avoir annulé. On s'est battu et on a fait. Et c'était à Vieux-Boucou en 2020. Et on a fait la journée départementale comme d'habitude, avec ce qu'on nous a demandé, bien sûr, avec les règles sanitaires qu'on nous a demandé. Et on a fait également à Vieux-Boucou en 2020 lors de la journée départementale. Sur 3 jours, il y a eu le concours national Bazadé, qui est le seul concours national qui a eu lieu en 2020. Voilà. Et moi, je suis sur le canton de Saint-Saint-Tyros. La Saint-Saint-Tyros, le seul comice agricole qu'il y a eu dans les Landes en 2020, ça a été le comice de Saint-Saint-Tyros. Et l'an passé, en 2021, il y en a eu deux. Il y a eu celui de Peyrade et celui de Saint-Saint-Tyros. Si vous avez la volonté, à un moment donné, rien ne vous arrête. Et il faut faire comme ça, c'est tout.
Et après, en termes de finances, vous avez ressenti la crise ou pas du tout? Est-ce que ça a eu un impact
aussi? On a eu des crises qu'on ne partage avec personne, notamment des crises qu'on a dues aux Anglais, la vache folle en 1996, qui a duré, qui a eu une deuxième couche en 2001, qui a été catastrophique. Pendant 5 mois, il n'y a pas eu de marché, il n'y a rien eu, les veaux que l'on vendait, les animaux qu'on vendait, si on pouvait en vendre, c'était moitié prix. Et là, on partageait cette crise avec personne, parce que vous savez qu'un agriculteur tourne mal, on n'en parle pas beaucoup. Hein. On aura une bonne semaine de communication, c'est la semaine du salon d'agriculture, après on pourra à moins de nous. Mais c'est cette semaine-là, on va parler beaucoup d'agriculture. Mais donc pour vous dire que voilà, c'est pas. Des crises, quand on a une crise dans le monde agricole, elle est exclusive pour le monde agricole. Non, quelque part, les gens sont aperçus qu'il y avait des agriculteurs autour d'eux et ont voulu se rapprocher des agriculteurs pour consommer au plus près, au travers de la crise du coronavirus. Mais non, au monde agricole, si ce n'est que maintenant les prix augmentent, les prix des matières premières augmentent et celles qu'on consomme plus encore que celles que l'on vend, autrement on n'a pas eu d'énormes répercussions.
Et est-ce que cette amitié que vous évoquiez en début d'entretien, Hervé, est-ce que cette amitié aussi, elle vous aide dans le monde agricole à traverser ces crises?
Ah oui. Bon, de toute façon, vous savez, les éleveurs sont quand même... dans l'agriculture, il y a moins une solidarité qu'il y avait il y a 30 ans, 40 ans. Il y a 30, 40 ans, les agriculteurs travaillaient tous ensemble. Le jour où on rentrait du foin, tout le monde, tous les voisins s'approchaient. Au fur et à mesure que les fermes d'élevage sont fermées, les voisins n'ont pas regardé si vous faisiez du foin. Après, c'était pareil pour plein de corvées, où il y avait des corvées de voisinage, tout le monde travaillait ensemble. Aujourd'hui, quelque part, il n'y a que les éleveurs qui ont l'habitude de travailler ensemble. Parce que quand on fait une corvée en silage, les voisins sont là pour vous aider. Alors certes, c'est les voisins éleveurs, c'est pour ça que plus vous êtes, moins vous êtes nombreux, plus vous avez de mal à recruter à main d'œuvre aussi. Mais dans le milieu élevage, il y a une solidarité. Et dans le milieu des concours, même s'il y a une compétition qui est acharnée, on s'apprécie. On est en Blonde d'Aquitaine, on est une trentaine à faire le concours départemental. En Bazadaise, on est 7-8. Mais c'est tous des gens qui s'apprécient et qui sont très heureux de passer une journée ensemble.
Et alors pour cette nouvelle édition du Salon d'Agriculture, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Hervé?
Bon, pour que ça se passe bien. Quand vous y allez en Blonde d'Aquitaine, il y a un concours qui est l'un des plus beaux concours de France, même s'il n'y a que peu d'animaux. Mais en Bazadé, c'est une exposition où il y aura 5 présentations sur les différents rings de la porte de Versailles durant la semaine. Alors nous, on expose toute la semaine, les 9 jours. Mais il n'y a pas de concours, alors vous n'avez pas d'enjeu majeur non plus. Mais ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. C'est tout du bonus, c'est tout du bonheur. De toute façon, aller présenter une bête au pied du métro à Paris, c'est tout du bonheur. Pour l'éleveur, c'est le rêve de tout éleveur. Tous les éleveurs qui aiment leurs animaux, c'est le rêve d'aller présenter une bête à Paris. Et ouais. J'ai la chance d'avoir vécu plein de fois.
Magnifique. Merci beaucoup, Hervé.
Merci à vous.
Un grand merci à Hervé Lard qui lui aussi est en ce moment même en route pour Paris. Merci à Floriane Bellettini, à Mélanie Martin, à Sabine Charles et Isabelle Rocher. Je renouvelle également mes remerciements à Louise Lespard. Voilà, je le voulais pour conclure, pour sa présence et son apport à la préparation de cette émission. Aujourd'hui, aux manettes de ce 8e Margot Gate, c'était l'admirable Arnaud Mora. Et c'est avec la tout aussi admirable Camilla Cabello que l'on se quitte. Chères auditeuristes, merci pour votre écoute et bon groove. On se retrouve dans 2 semaines pour parler lutte pour les droits des femmes. Bah ouais, d'ici là, prenez soin de vous. Bisous.